En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
À l'initiative de la section Économie, Statistiques et Finances de l'Académie des sciences morales et politiques, s'est tenu un important colloque sur le thème de l'énergie nucléaire, précisément intitulé « Quel avenir pour le nucléaire dans la politique énergétique française ?». Ce colloque s'est tenu à l'Institut de France à Paris durant la matinée du lundi 19 mars 2012. Et au cours de la séance académique de l'après-midi sont intervenus les deux académiciens que vous allez entendre maintenant, Bertrand Collomb de l'Académie des sciences morales et politiques et Édouard Brézin de l'Académie des sciences. Le premier a proposé une synthèse des interventions du colloque, notamment celle des académiciens Jean Béchler et Michel Pébrot, et il a également énoncé quelques conclusions qui ont pu être formulées à l'issue des débats de ce colloque.
Donc l'accident de Fukushima a relancé dans plusieurs pays, en particulier dans le nôtre, la controverse sur le nucléaire. Votre section économie avait pensé qu'il s'agissait d'une question importante et donc qu'on pouvait en faire l'objet d'une des séances d'actualité qu'on avait décidé d'organiser en marge du programme annuel. Il y a donc eu ce matin un entretien qui nous a permis d'entendre différents points de vue sur les questions de sécurité, sur les aspects économiques, sociologiques et philosophiques de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc je me propose de vous en rendre compte en y ajoutant quelques conclusions personnelles, et notre confrère Édouard Brézin nous fera part ensuite des travaux de l'Académie des sciences et de l'avis qu'elle a rendu public il y a quelques semaines. Alors la principale question soulevée par Fukushima est évidemment celle du risque présenté par le fonctionnement des centrales nucléaires. C'est donc par là que nous avons commencé ce matin. Nous avons eu la chance de pouvoir entendre André-Claude Lacoste, président de l'autorité de sûreté nucléaire. Alors vous savez que l'agence a étudié les circonstances d'accident, a fait une réévaluation très détaillée des risques pouvant exister dans les centrales françaises par des inspections sur place et que dans son rapport, elle a conclu à la fois qu'aucune centrale n'était dans une situation telle qu'elle doive en recommander l'arrêt, mais que toutes méritaient des travaux de sécurité supplémentaires, précisément pour tenir compte des configurations de risques improbables qui peuvent arriver, comme c'est arrivé à Fukushima. La conjonction d'un tremblement de terre, d'un tsunami, etc., n'est effectivement pas le genre de choses qu'on rencontre tous les jours. Et selon l'expression du rapport, l'objectif est d'augmenter la robustesse des centrales dans les situations extrêmes. Il faut en particulier éviter la perte de refroidissement et faire en sorte que les alimentations et les autres dispositifs de secours ne puissent pas être simultanément tous mis hors service, soit par un événement naturel, soit par une erreur, soit par une malveillance. Encore qu'en matière de sécurité, j'ai découvert que l'agence de sûreté n'est pas chargée de la sécurité, ce qui n'est pas normal. Qu'elle ne soit pas chargée de prévenir les attentats, bien sûr, mais qu'elle ne doive pas intégrer dans ses recommandations de sûreté ce risque-là, paraît pas très logique. Alors, l'ASN a en particulier demandé ce qu'on appelle la bunkérisation des diesels de secours et d'un poste rapproché de gestion de crise, a été spécifiquement demandée. L'ASN a indiqué qu'elle n'accepterait la prolongation de la vie des centrales existantes au-delà de 40 ans, qui a été demandée par EDF déjà avant Fukushima, que si les mesures de sécurité en sont accrues et si un dispositif de surveillance du vieillissement des éléments non remplaçables est mis en œuvre. Par ailleurs, l'ASN considère que la troisième génération, et notamment l'EPR, assure, du fait de sa conception renforcée, une protection améliorée, avec notamment une réduction significative des rejets radioactifs en cas d'accident grave, y compris les accidents avec fusion du cœur. Et elle demande dans son rapport que donc la sécurité des réacteurs existants soit améliorée avec comme référence, pas une notion extrêmement précise, le niveau de sécurité des EPR. Alors au-delà du rapport, André-Claude Lacoste nous a répété ce qui est dit dans le rapport. On ne peut jamais exclure un accident. Ce qu'on peut faire est d'en réduire la probabilité et en limiter les conséquences. Et d'ailleurs, pour en limiter les conséquences, le rapport de l'ASN demande que soit constituée une force d'action rapide nucléaire capable d'intervenir immédiatement après un accident dans une centrale française. Alors, ceci dit, et je commente au-delà de l'intervention d'André Claude Lacoste, les trois accidents nucléaires qui se sont produits, Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima, montrent deux choses. Ils montrent que dans des conditions très différentes, des pays différents, à la suite d'erreurs humaines ou de catastrophes naturelles, des événements dont la probabilité d'occurrence était jugée très faible peuvent se produire. Et en même temps, ils montrent que les conséquences de ces accidents ont pu être relativement maîtrisées. À Three Mile Island, l'accident est resté interne à la centrale et n'a pas eu de conséquences pour la population environnante. À Tchernobyl, l'accident a été très mal géré sur le plan de la protection des populations environnantes, en particulier le système de distribution de l'iode pour empêcher que les gens soient contaminés par l'iode n'existait pas, et donc on a eu des cancers de la thyroïde qui sont d'ailleurs soignables, mais qui ont été quand même en nombre relativement important. Et puis, il y a eu les liquidateurs pour lesquels on a atteint les doses où des cancers supplémentaires ont été créés. Par contre, il ne semble pas, contrairement à l'idée qu'on en a, qu'à Tchernobyl, il y ait d'effets mesurables dans la population européenne survolée par le fameux nuage, malgré l'émotion qu'il y avait eu à ce moment-là. Vous vous rappelez qu'en France, les déclarations sans doute excessivement optimistes ou lénifiantes de certains avaient entraîné une sévère perte de crédibilité des autorités publiques et des experts officiels. Crédibilité d'ailleurs, ou absence de crédibilité sur laquelle on n'est pas revenu depuis Tchernobyl. Pour Fukushima, c'est trop tôt de faire un bilan, mais ce qu'on sait, c'est que les seules morts d'ouvriers ont été dues au tsunami. Il ne semble pas y avoir de situation où des ouvriers comme les liquidateurs de Tchernobyl ont été exposés consciemment à des doses vraiment dangereuses. Mais on a dû évacuer 125 000 personnes, dont la santé n'a probablement pas été affectée. Mais la décontamination des sols est un processus difficile et coûteux dans les régions proches de la centrale. Et la vie des populations a quand même été assez considérablement perturbée, à la fois par l'évacuation et puis par l'anxiété et l'incertitude sur l'effet à terme. Notamment, les gens sont soucieux de leurs enfants, en se demandant qu'est-ce qui va se passer avec des niveaux de radiation qui, dans le sol ou ailleurs, qui peuvent être supérieurs à la normale. Alors en plus, cette discussion des doses dangereuses est une discussion très difficile et difficile à comprendre pour l'opinion. Des radiations très intenses ont des effets immédiats, y compris la mort. Mais pour des niveaux plus modérés, c'est l'accumulation des radiations dans un certain temps qui devient dangereuse. Et chaque organisme réagit différemment avec des possibilités de résistance et des vitesses de récupération très différentes. Pour ce qui concerne les accidents mortels, il est clair que l'énergie nucléaire a causé jusqu'à présent beaucoup moins de morts, même en tenant compte des accidents qui arrivent dans les mines d'uranium ou de l'ensemble de la filière nucléaire, que le charbon, le pétrole. D'après les statistiques, le nombre de morts par térawattheure produit serait de 25 dans la filière charbon, 40 dans la filière pétrole et 1/100 de morts par térawattheure pour la filière nucléaire. On pourrait se dire qu'au niveau rationnel, il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter de la sécurité de l'énergie nucléaire. Cependant, cette donnée statistique n'est évidemment pas satisfaisante. La question principale posée, dont on a un peu parlé ce matin et à laquelle il est très difficile de donner une réponse, est celle de la catastrophe maximale possible. Même si elle a une probabilité extrêmement faible de se produire, quelle est la catastrophe maximale supportable ? Est-elle la même si elle a un effet localisé aux environs immédiats de la centrale, ou si elle peut se diffuser par des poussières radioactives réellement nocives sur l'ensemble d'un continent, voire sur l'ensemble de la planète. Et le caractère insidieux, invisible et d'effet retardé des radiations nucléaires entraîne une réaction très angoissée de l'opinion. Alors que le sida ou des tremblements de terre comme ceux qu'on a connus en Arménie ou le tsunami lui-même ont fait des milliers de victimes, et vous savez qu'il y a par an environ 130 000 morts dans le monde du fait des désastres naturels, les enquêtes d'opinion montrent qu'en 1989 et encore en 2010, Tchernobyl était classé au premier rang des risques les plus effrayants. Alors avons-nous le droit de prendre ce risque ? Et en particulier, avons-nous le droit de le prendre pour les générations futures ? C'est le sujet que notre confrère Jean Béchler, qui est aussi membre de la commission nationale qui traite la question des déchets nucléaires, a traité à la fin de notre matinée. Il est assez aventuré de résumer sa communication en quelques mots, surtout en sa présence. Et j'espère qu'il me pardonnera si je simplifie et ne traduis sans doute pas bien la richesse de son exposé. Partant de l'idée que l'espèce humaine est caractérisée par le degré très élevé de liberté dont elle dispose, il nous a expliqué que cette liberté est la possibilité d'un choix autonome qui doit être rationnel et droit, c'est-à-dire respectant la finalité de l'homme. Ce choix est faillible et il est plus ou moins fortement contraint par les faits naturels, les faits culturels, les circonstances et l'incertitude. L'exercice de la liberté humaine implique un devoir de responsabilité, y compris envers les générations à venir. Il s'agit d'abord d'assurer la perpétuation de l'espèce et aussi de permettre à ces générations futures d'exercer leur propre liberté. Nous savons que nos choix sont faillibles et qu'aucune option ne permet d'éliminer les risques ni les contraintes, car sinon nous ne pourrions plus vivre. Nous devons supposer que nos successeurs étant libres sauront faire les choix les meilleurs et nous ne devons pas les priver de cette liberté. Si une activité présente une probabilité très faible, mais difficile à évaluer, d'un événement catastrophique, il nous revient d'apprécier si nous acceptons ce risque. Il n'y a pas de raison philosophique de s'opposer à cette prise de risque si on a essayé de la limiter au maximum, sauf s'il existait une chance, même très faible, de mettre fin ainsi à l'espèce humaine. On a pu penser qu'une guerre nucléaire risquait de présenter un risque pour la perpétuation de l'espèce humaine. On peut penser qu'un accident de centrale nucléaire qui tourne mal pourrait affecter des populations beaucoup plus importantes que Fukushima, par exemple si Tokyo avait dû être évacué, qui pourrait entraîner 10 ou 100 fois plus de cancers ou de morts que Tchernobyl, mais on ne voit pas de scénario possible qui mettrait en cause la survie de l'homme. Alors, une série d'accidents analogues survenant dans différentes régions pourrait à la limite avoir cet effet. Mais nous devons supposer que la question serait traitée par la liberté responsable de nos successeurs après les premiers accidents réellement catastrophiques et avant que la survie de l'espèce humaine soit en cause. Donc, compte tenu des critères proposés, ce que nous suggère Jean Béchelaire, c'est qu'il n'y a pas pour nous d'obligation éthique de refuser le risque nucléaire. Alors, après ce débat sur la sécurité, nous avons abordé les questions, les aspects économiques de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire a-t-elle une valeur économique qui justifie son développement par rapport aux autres sources possibles d'énergie? Nous avons pu entendre sur ce sujet Jacques Le Sourne, directeur du programme énergie de l'IFRI, Jacques Percebois, professeur d'économie et président de la commission énergie 2050, qui a remis son rapport tout récemment, et Jean-Paul Bout, directeur de la stratégie et de la prospective d'EDF. Claude Mandil, ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie, et notre confrère Michel Pémereau sont également intervenus dans le débat. Alors Jacques Le Sourne, lui, a d'abord insisté sur la nécessité de faire des choix rationnels, éclairés par les données économiques, mais aussi de tenir compte de l'architecture complexe et pas toujours très rationnelle ou optimale du cadre européen. Alors ce cadre européen a trois piliers. D'abord l'indépendance énergétique, mais chaque pays en donne une interprétation différente. Ensuite, un marché unique et transparent. Il est tellement unique que le prix du kilowattheure est pour les ménages allemands le double du prix du kilowattheure français. Enfin, la lutte contre le changement climatique avec les objectifs 20-20-20, 20% de réduction des émissions, 20% d'énergie renouvelable et 20% de progrès d'efficacité énergétique à l'horizon 2020. Après ces piliers européens, il y a des directives européennes et il y a des décisions gouvernementales qui sont prises indépendamment les unes des autres, comme on l'a vu à propos de la décision allemande de se retirer du nucléaire. Alors, si on part ensuite du contexte mondial, et c'est ce que nous a présenté Jacques Percebois, le contexte mondial est marqué à la fois par une forte demande d'énergie, car il faut permettre le développement économique mondial, et l'accès à l'énergie de populations plus nombreuses qui n'ont pas actuellement un accès à l'énergie. Et en même temps, la nécessité de limiter l'utilisation des énergies fossiles productrices de gaz à effet de serre. Contexte qui entraîne une augmentation du prix de l'énergie, qui, malgré le ralentissement de la croissance mondiale depuis 2009, sont restés historiquement élevés, à une exception, celui du gaz en Amérique du Nord, compte tenu de l'apparition rapide et massive du gaz de schiste. Alors, sur le plan du climat, on parle d'une situation où la production d'électricité nucléaire a permis à la France d'avoir un niveau d'émission CO2 par habitant sensiblement inférieur à celui des autres pays américains. Nous sommes à 6 tonnes par habitant et par an, comme la Suède à cause de l'hydraulique, contre 10 tonnes par habitant et par an pour l'Allemagne ou même le Danemark, qui a beaucoup développé les énergies renouvelables. Donc la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique française, voire sa suppression, poserait donc à la fois un problème de coût d'exploitation et coût d'investissement, et un problème d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, la commission 2050, à Énergie 2050, a étudié plusieurs scénarios. Ce ne sont pas des scénarios qu'elle a construits elle-même, ce sont des scénarios qui ont été proposés par les différents protagonistes, l'Institut de l'électricité, Areva, des associations environnementales, etc. Et ces scénarios peuvent se classer en quatre familles. Il y a ceux qui prévoient, comme EDF l'a demandé, la prolongation de 40 à 60 ans de la durée de vie des centrales nucléaires. Il y a ceux qui visent à remplacer progressivement ces centrales par des centrales nucléaires de troisième génération de type EPR, jugées plus sûres, mais qui sont et seront plus coûteuses que les centrales actuelles. Il y a ceux qui réduisent progressivement la part du nucléaire pour atteindre 50% en 2030. Et il y a ceux qui prévoient la sortie du nucléaire d'ici 2030, soit en le remplaçant essentiellement par des énergies renouvelables, solaire ou éolien, soit en les remplaçant surtout par des centrales à charbon ou à gaz. Alors, bien entendu, ces scénarios ne conduisent pas aux mêmes émissions de CO2. Pour les comparer, il faut introduire un prix du CO2. Et la Commission Énergie 2050 a un prix de 50 euros la tonne, très supérieur au prix actuel du CO2 sur le marché, puisque la conjoncture actuelle en Europe fait que les émissions se sont réduites toutes seules et que le prix du CO2 a baissé. Mais il n'est pas sûr que ce 50 euros par tonne de CO2 soit suffisant en moyen terme pour obtenir les réductions très ambitieuses à horizon 2040-2050, puisqu'on parle de réduire de 80% les émissions de CO2 des pays industriels. Alors, la comparaison économique suppose aussi que les coûts des différentes alternatives soient bien estimés. Or, il y a depuis longtemps une controverse sur les coûts du nucléaire, et notamment sur la prise en compte des coûts de démantèlement des centrales nucléaires et de gestion des déchets. La Cour des comptes a été chargée d'une expertise des coûts qu'elle a effectuée en liaison avec la Commission Énergie 2050 et dont les conclusions ont été présentées récemment, fin janvier, début février. La conclusion de l'étude, c'est que ces coûts sont encore assez incertains, qui sont sans doute un peu supérieurs aux estimations utilisées jusqu'ici, mais pas de façon considérable. De même, la prise en compte des travaux de sécurité supplémentaires demandés par l'autorité de sûreté nucléaire ne modifie pas les ordres de grandeur. Enfin, l'estimation des coûts des centrales EPR est également difficile. Les prototypes en construction ont connu des dépassements de devis importants, mais on peut s'attendre à ce que l'effet d'expérience joue pour les réalisations suivantes. Finalement, par rapport à un coût de l'électricité nucléaire qui était habituellement considéré par EDF notamment comme étant de 39 euros par mégawattheure, on pourrait en fait se retrouver autour de 45. Pour les centrales nucléaires existantes, et entre 55 et 75 pour les EPR à construire. Mais les autres combustibles sont aussi affectés d'incertitudes, notamment le gaz. Il est actuellement très bon marché en Amérique du Nord, alors que dans le reste du monde, il s'indexe sur le prix du pétrole. La Commission Énergie 2050 a donc fait deux scénarios sur le prix du gaz. De même, les coûts de l'électricité éolienne ou solaire sont entachés d'incertitudes encore plus grandes. On s'attend à ce que les coûts de ces énergies baissent au fur et à mesure de leur développement. Mais il y a des différences de considérables entre l'éolien terrestre, moins coûteux, mais difficile à développer dans certaines régions en raison des réactions de l'opinion, et l'éolien offshore, qui sera beaucoup plus coûteux. D'autre part, ces énergies n'assurent pas de permanence d'utilisation, car soleil et vent sont intermittents. Et elles demandent donc l'existence d'une capacité de relais de type classique, car il n'y a pas, même pour le vent, une compensation statistique suffisante entre différentes régions ou entre différents pays européens. On a noté la semaine dernière qu'il y a eu un moment où il y avait de vent nulle part en Europe et où les éoliennes ont contribué zéro. Inversement, il y a des moments où les éoliennes sont à un maximum de contribution. L'éolien actuel est concentré dans le nord de l'Europe, où ne sont pas les marchés de consommation les plus importants, alors que le solaire aurait davantage vocation à se développer dans le sud. Donc tout ça demande des infrastructures supplémentaires de transport considérables. C'est coûteux, mais surtout, ça s'heurte à des résistances locales qui entraînent des délais parfois interminables. Chacun se rappelle des difficultés que nous avons eues et que nous avons encore pour faire passer une ligne à travers les Pyrénées. Finalement, il faut l'enterrer et dépenser 1 milliard d'euros supplémentaires pour arriver à vaincre les résistances, et ceci après 30 ans. Je me rappelle que Roger Fourreau, ministre de l'Industrie, qui était pourtant de cette région, n'avait pas réussi à trouver de solution. Et ce problème des transports est d'ailleurs un des points faibles du plan allemand de sortie du nucléaire, qui prévoit de remplacer les 25% d'électricité nucléaire qu'ont les Allemands, ils n'ont pas 75, ils en ont 25, et qui prévoit de les remplacer par des énergies renouvelables. Alors en définitive, je vous passe les chiffres et les détails, ces simulations complexes montrent que le scénario de prolongation des centrales nucléaires actuelles est toujours et de loin le plus favorable économiquement sur la base des coûts complets. Il le serait encore plus si on tenait compte uniquement des coûts futurs, ce qui serait économiquement raisonnable, puisque les investissements de construction des centrales ont déjà été effectués. C'est un résultat qui, en soi, n'est pas très surprenant. Les scénarios de développement des EPR sont également plus favorables que les scénarios de sortie du nucléaire, mais l'écart est moins important. Et l'écart est plus sensible aux hypothèses retenues, notamment aux hypothèses de prix du gaz. On peut dire, sans rentrer dans les détails, que l'arrêt du nucléaire, en gros, augmenterait le prix de l'électricité de 30 à 40% par rapport à la poursuite des centrales actuelles et d'au moins 10 à 20% par rapport à la nouvelle génération nucléaire. Comme on l'a vu, ces chiffres sont tout de même soumis à beaucoup d'incertitudes du fait des évolutions technologiques possibles ou des variations de coûts. La Commission Énergie 2050 a donc fait une recommandation assez prudente en considérant que la seule conclusion vraiment robuste était la prolongation de la durée de vie des centrales existantes, sous réserve, bien entendu, des normes de sécurité. Au-delà, elle considère que l'évaluation des différentes alternatives pourra et devra être revue selon les évolutions constatées. Alors Jean-Paul Bout, directeur de la stratégie et de la prospective d'EDF, a apporté son expérience en insistant sur le fait que, pour la production d'électricité, il fallait avoir le bon mix au bon moment et au bon endroit. Il n'y a pas pour lui de solution technologique miracle. Il faut à la fois déployer les solutions technologiques compétitives, dont l'hydraulique, le nucléaire de troisième génération, c'est-à-dire le nucléaire futur, et l'éolien terrestre, qui n'émettent pas trop de CO2, et préparer pour 2030 et au-delà les technologies du futur qui actuellement sont encore trop chères. Éolien offshore, photovoltaïque, solaire à concentration, capture et séquestration de CO2 pour les centrales à charbon et nucléaire de quatrième génération. Mais il faut aussi et surtout tenir compte des conditions géographiques différentes qui influeront sur leur maturité économique. Faire du solaire dans le Nord à 1000 heures par an, c'est probablement moins astucieux que faire du solaire en Espagne à 3000 heures par an. Alors, ceci dit, ce qui apparaît, c'est que, en l'absence de percées technologiques majeures sur le stockage de l'énergie. Alors, y en aura-t-il, y en aura-t-il pas ? Peut-être Édouard Brezin nous dira ce qu'il en pense. Les énergies renouvelables ne pourront être que des compléments, des moyens de production de base, que ceci soit gaz, charbon ou nucléaire. Et que finalement, ce que nous a dit M. Bout, c'est que pour la France, le nucléaire est finalement un levier pour développer une politique ambitieuse de maîtrise de la demande de l'électricité, donc amélioration de l'efficacité énergétique, et une stratégie industrielle pour les énergies renouvelables. L'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande sont des objectifs importants, mais de long terme, car ils demandent des changements importants de comportement. L'élasticité de la demande d'électricité par rapport au produit national brut était de supérieure à 1 il y a 20 ou 30 ans dans nos pays, elle est maintenant de l'ordre de 0,8, c'est-à-dire que l'électricité n'augmente que de 80% de la croissance économique. Mais elle est encore de 1,5 en Turquie. Pour arriver aux objectifs qu'on imagine, il faudrait qu'elle passe à 0,5. Donc passer de 0,8 à 0,5 chez nous et passer de 1,5 à 0,5 en Turquie. il est évident que c'est considérable. Alors, après cet exposé de nos trois économistes, nous avons entendu Benjamin Dessus, ingénieur et économiste, auteur d'un livre dont le titre est « En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment ?» ce qui résume assez bien la position. Nous avions invité Benjamin Dessus, bien que certains de nos confrères en aient été émus, car ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais nous pensons que dans un débat organisé par l'Académie, il est normal d'entendre des gens qui ont un point de vue, même s'il n'est pas tout à fait majoritaire dans nos cercles. Alors, Benjamin Dessus nous a exposé que finalement, son opposition au nucléaire vient d'abord du fait qu'il s'inquiète que cette technologie parte de l'uranium, qui est un produit certes dangereux, mais qui est dilué, l'uranium naturel, qui est dilué et enterré la plupart du temps, qui est donc assez inoffensif, mais qu'en produisant de l'énergie, nous créons une série de corps nouveaux, jusque-là inconnus dans la nature, plutonium, les actinides mineurs, les produits fission, tous plus dangereux les uns que les autres, et souvent pour des durées géologiques. C'est sa première raison de son inquiétude. D'autre part, les catastrophes de Tchernobyl et maintenant de Fukushima ont montré que l'affichage des risques à probabilité très faible ne correspondait pas, selon lui, à la réalité, ou on peut dire simplement que même quand une probabilité est faible, il y a toujours une chance qu'elle se réalise. Dès 2000, Benjamin Dessus avait participé à un rapport remis avec M. Charpin au Premier ministre Lionel Jospin, qui déjà, en 2000, proposait une sortie du nucléaire en 2030. Et maintenant, en 2012, il prend le contre-pied du rapport de la Commission Énergie 2050 en estimant que la France peut, sur le plan pratique et sur le plan économique, sortir du nucléaire en une vingtaine d'années. Et puisqu'elle le peut et qu'il est inquiet par le risque nucléaire, il estime que la France doit le faire. Alors il propose une politique, deux choses. Une politique volontariste d'économie d'électricité par une meilleure efficacité des appareils électriques et l'abandon du chauffage électrique. Il dit que les Allemands consomment 25% de moins d'électricité que les Français, les ménages allemands, en dehors du chauffage électrique, et qu'il faudrait obtenir cela, et même mieux, puisqu'il propose de réduire, il pense qu'il réduirait ainsi la demande en 2030 de 35%. Donc réduire la demande d'électricité de 35% en 18 ans. Et il propose alors que cette électricité en volume réduit soit fournie à 80% par les énergies renouvelables et à 20% par des turbines à gaz. Il estime, il reconnaît que dans ce scénario, le coût du kilowattheure serait de 20% supérieur au scénario nucléaire. Donc les chiffres ne sont pas tellement différents de ceux retenus par la Commission Énergie 2050. Mais comme on en consommerait moins, la facture totale d'électricité serait inférieure de 12% en raison de la réduction de la consommation. Et les investissements seraient du même ordre de grandeur, autour de 500 milliards d'euros. Alors, il admet que dans le scénario de simple prolongation des centrales existantes, on aurait à la fois des coûts d'exploitation et des investissements inférieurs, mais au prix d'un risque qu'il juge inacceptable. Alors, dans les discussions, il est apparu que la majorité des intervenants ne considèrent pas cette hypothèse de réduction de consommation comme réaliste. Et surtout, rien n'interdit de rechercher une réduction des consommations en conservant le nucléaire et de bénéficier à la fois de coûts unitaires plus bas et d'une facture globale allégée. Donc le raisonnement n'a pas absolument convaincu les participants de l'entretien de ce matin. Alors, quelles conclusions peut-on tirer de cette matinée et de nos discussions ? Je crois qu'il apparaît clairement, et personne ne le conteste, même Benjamin Dessus, que les centrales nucléaires actuelles sont la solution la moins chère. Je pense, en ayant écouté André-Claude Lacoste et en ayant écouté dans des réunions précédentes l'Académie des sciences, qui nous dira ce qu'elle en pense tout à l'heure, que leur niveau de sécurité en rend l'exploitation acceptable. Jean Béchler m'a conforté dans l'idée que si nous acceptons ce risque pour nous-mêmes, nous ne sommes pas illégitimes à l'accepter pour nos enfants. Mais je dois dire que la stratégie suggérée par la Commission Énergie 2050, consistant simplement à prolonger de 20 ans leur durée de vie et à reporter les choix de long terme à plus tard, elle a l'avantage de la flexibilité, mais elle me semble présenter des risques. Il me semble inévitable que l'on veuille un renforcement progressif des mesures de sécurité, surtout lorsqu'une nouvelle génération jugée plus sûre sera disponible. Et ce besoin de renforcement risque de ne pas forcément permettre d'aller jusqu'aux 60 ans de durée de vie. Et bien sûr, tout accident sérieux sur une de ces centrales risquerait d'obliger à une réaction beaucoup plus rapide et très coûteuse. Je crois que si l'on pense, et je pense personnellement, et la majorité des intervenants de ce matin pensent, et Michel Pébreau notamment nous a fait un exposé très précis et documenté là-dessus, si l'on croit que l'énergie nucléaire est indispensable pour fournir une électricité bon marché sans émission de gaz à effet de serre, il faut maintenir la dynamique nucléaire. Il faut faire progresser l'expérience des centrales de troisième génération, EPR ou autres, et donc il faut en construire. Et il faut reprendre activement les études de la quatrième génération, car celle-ci utiliserait en effet le plutonium déjà produit pour fertiliser l'uranium appauvri, dont nous avons une quantité suffisante pour des siècles d'utilisation. Alors, je n'ai pas ajouté les autres arguments qui rendent la sortie du nucléaire négative, et notamment les arguments de balance commerciale que Michel Pébreau a développés ce matin, et de compétitivité. Nous sommes dans une situation où nous nous plaignons que la compétitivité française ne soit pas bonne. Nous avons un déficit commercial important. Toute initiative qui pénaliserait la compétitivité en renforçant, en augmentant le coût d'électricité et qui augmenterait notre déficit commercial ne paraît pas une stratégie très favorable. Et enfin, le dernier argument, c'est que nous avons qualité industrielle, un outil industriel dans ce domaine et une expertise qui fait que la France, l'industrie nucléaire en France est une des industries compétitives. Comme beaucoup de pays vont faire du nucléaire, il va y avoir des besoins mondiaux importants. Ça serait évidemment dommage de se priver d'une industrie performante, même si on peut penser qu'on pourra développer une industrie des énergies renouvelables. Mais les premiers pas de développement de ces industries semblent plutôt privilégier les fabricants chinois que les fabricants français. Donc ça fait d'autres raisons de ne pas avoir abandonné le nucléaire. Alors cette politique nucléaire, je crois qu'il faut souligner qu'elle n'est nullement contradictoire avec les actions d'économie d'énergie, ni avec le développement des énergies renouvelables. Il me semble qu'on peut avoir les trois volets d'un triptyque gagnant, économie d'énergie, énergie renouvelable, nucléaire modernisé et à sécurité renforcée. Les proportions des différentes composantes se détermineront en fonction de l'expérience, mais il est assez douteux que l'une d'elles rende inutiles les deux autres. On ne pourra probablement pas, en tout cas à horizon prévisible, ni réduire les consommations, ni développer les énergies renouvelables à un point qui rendrait inutile le recours au nucléaire. C'est donc la conclusion que je vous propose en conclusion de cet entretien de ce matin. Merci.
Après cette synthèse établie par Bertrand Collomb, vous allez entendre maintenant Édouard Brézin de l'Académie des sciences. Il a proposé de rappeler les travaux menés par l'Académie des sciences sur le nucléaire et la vie publique qu'elle a rendue et qui résume sa position. Puis Édouard Brézin formule plusieurs commentaires personnels, notamment à propos des déchets nucléaires.
Je crois qu'il y a quand même une immense convergence entre ce que vient de dire Bertrand Collomb et les conclusions de l'Académie des sciences. Nous avons travaillé sur deux plans. D'abord, immédiatement après Fukushima, dès mars 2011, le président Carpentier de l'Académie des sciences a mis en place trois groupes de travail, l'un consacré à l'étude de la sismicité, le deuxième dont j'étais responsable sur l'énergie nucléaire et l'accident nucléaire, et le troisième sur les conséquences médicales. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur Fukushima, car vous avez tous lu les choses. Peut-être qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours présent à l'esprit que je voudrais rapporter. Il a été rappelé ce matin par André-Claude Lacoste qu'il faudra des années pour comprendre complètement ce qui s'est passé. Pour prendre un exemple, à Three Mile Island, en 79, il a fallu plus de 2 ans avant de pouvoir introduire une caméra à l'intérieur du réacteur pour pouvoir commencer à examiner ce qui s'était passé. Il y avait encore des doutes sur la fusion du cœur. Bien. Donc, il faudra encore beaucoup d'années. Néanmoins, certain nombre d'éléments sont ressortis. Comme vous le savez, on continue, la plupart des gens qui ont examiné en détail continuent de penser que le tremblement de terre, s'il n'avait pas été suivi du tsunami, même s'il était d'amplitude supérieure aux spécifications qui avaient été imposées au constructeur, qui était de magnitude 8, s'est produit un tremblement de magnitude 9, néanmoins n'aurait pas causé d'accident nucléaire pour les populations. On aurait sans doute endommagé évidemment les réacteurs, mais pas d'accident grave comme celui que nous avons connu. Deuxième élément, pardonnez aux académiciens des sciences, mais les sismologues n'ont pas été écoutés par le gouvernement japonais, en particulier l'un de nos confrères, Xavier Le Pichon, qui est un grand spécialiste de la tectonique des plaques, avait fait un article en 2002 sur les plaques qui sont très précisément face à Fukushima au Japon et prédit la possibilité d'un événement très important parce que les sismologues étudient l'énergie accumulée au cours des années et ceci n'avait pas été pris en compte. Donc, je crois quand même qu'il y a besoin d'une articulation meilleure, au Japon en tout cas, mais même pour nous, par exemple pour les Antilles, entre la sismologie et les données scientifiques et l'action publique. Le deuxième point qui est très frappant, c'est que le danger du tsunami avait été incroyablement sous-estimé. Je dois dire que je l'ai réalisé qu'en écoutant nos collègues sismologues. Vous savez qu'à Fukushima Daiichi, il y a 6 réacteurs. Les 4 premiers ont été construits au début des années 70, ils ont été construits en un lieu où il y a une falaise de 40 mètres de haut. Mais pour faciliter l'approvisionnement en eau, on a creusé la falaise pour les réacteurs 1, 2, 3, 4. Et puis les réacteurs 5 et 6 ont été construits quelques années plus tard. Et cette fois-ci, les constructeurs se sont dit « c'est peut-être un peu dangereux tout de même ». Donc ils les ont construits plus haut et les réacteurs 5 et 6 n'ont pas été affectés par la vague. Donc, premier élément tout de même, assez navrant de voir que, réalisant qu'il pouvait y avoir un danger lié au tsunami, les pompes de secours n'étaient pas en local étanche. Donc, il y a quand même un certain nombre, je dirais, d'imprudences techniques qu'on ne peut que souligner. Comme vous le savez, l'organisation de la crise n'a pas été optimale. Je vais y revenir dans un instant. Je vais revenir à ce que disait Bertrand Collomb sur les populations. Tout de même, on ne peut pas s'empêcher de reprocher à TEPCO de ne pas avoir acheté les recombineurs à hydrogène que leur proposait en particulier Areva, qui aurait coûté quelques centaines de milliers d'euros par réacteur, c'est-à-dire absolument rien, qui aurait peut-être, nous l'espérons, en tout cas en France, où les 58 réacteurs sont équipés de ces recombineurs à hydrogène, nous pouvons espérer que les explosions qui se sont produites qui ont projeté des matières radioactives dans l'atmosphère, ne se seraient pas produites. Donc, TEPCO est quand même un opérateur qui était bien connu, Henri-Claude Lacoste y a fait allusion ce matin, bien connu parce qu'il y a des réunions d'opérateurs dans le monde tous les ans où chacun rapporte les accidents, les incidents qui, comme toute industrie, émaillent la vie de cette industrie. EDF, typiquement, rapporte une centaine. TEPCO est connu pour arriver avec quelquefois un et, en général, rien à voir. Donc, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est qu'il est certain que l'indépendance de notre autorité de sûreté n'est absolument pas, par rapport au pouvoir public, n'est absolument pas assurée au Japon, où les liens entre TEPCO et le gouvernement étaient tels que ces conditions n'étaient pas bien assurées. Donc, voilà un certain nombre d'éléments. Quelques éléments tout de même positifs. Comme vient de le rappeler Bertrand Collomb, il n'y a pas une mort par irradiation. Il y a eu 2 morts sur la centrale qui ont été emportés par la vague, mais pas de morts par irradiation. Il n'y a pas eu de travailleurs sacrifiés. Personne n'a reçu de dose, a priori létale, ou même susceptible de développer à brève échéance un cancer. On a souvent comparé Tchernobyl et Fukushima. Tchernobyl, c'était, comme vous le savez, un réacteur en fonctionnement qui a explosé pendant son fonctionnement. Il a donc émis dans l'atmosphère, évacué dans l'atmosphère, une énorme quantité de produits radioactifs qui ont fabriqué le fameux nuage. C'est environ 10 fois plus de produits radioactifs qu'à Fukushima. Néanmoins, étant répandu sur une surface beaucoup plus grande, pour les populations concernées sur lesquelles retombait cet iode, césium radioactif, en réalité, la situation était à peu près comparable. Donc, on aurait pu imaginer que pour les populations du voisinage de Fukushima, pas les milliers de kilomètres, mais les quelques centaines de kilomètres carrés autour de Fukushima, on aurait pu imaginer des conséquences tout à fait aussi tragique. Il y a quand même eu 7000 cancers de la thyroïde comme conséquence de Tchernobyl. Je pense que là, la bonne information des Japonais, leur remarquable discipline et leur, toutes ces images qu'on a pu voir très touchantes après l'accident, j'ai souvenir de ces images dans lesquelles on voyait des Japonais remplir les coffres de leur voiture, non pas pour échapper, à s'éloigner de Fukushima, mais s'en rapprocher pour aider les populations. J'ai trouvé ces images absolument bouleversantes. Donc l'organisation japonaise, la distribution des pastilles d'iode pour saturer la thyroïde, donc ont, a priori, nous disent les médecins, sans doute évité la plupart des conséquences tragiques de Tchernobyl. Cela dit, il reste ce qui est la conséquence la plus dommageable, la conséquence la plus tragique de cet accident nucléaire, c'est qu'il y a une surface, une région inhabitable pour des années. On ne sait pas exactement encore combien. Les Japonais tiennent énormément à montrer que leur technologie est capable rapidement de retourner ces terres, de déplacer toutes les terres irradiées pour que faire un retour à la vie humaine. Mais la période est quand même tragique pour encore beaucoup d'années. C'est évidemment ça la conséquence la plus dommageable de Fukushima. Dans une deuxième partie, l'Académie des sciences s'est posé les questions que vous vous posez, peut-être d'un point au plan plus technique, moins évidemment moins fourni au plan des conséquences économiques, mais pour nous demander que faut-il faire, et en particulier pour notre industrie française, dans ce contexte. Il nous a semblé important de rappeler le contexte mondial. Le contexte mondial, si on regarde les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, on y voit que depuis 20 ans, la demande énergétique mondiale a augmenté de 1,8% par an. Il y a une petite stabilité en 2009, mais un brusque décroche, réaugmentation en 2010. Donc, malgré la crise, nous sommes dans cet accroissement. 1,8% par an, si on prolonge, ça fait un doublement en 2050, dont tout le monde parle, mais c'est ça le doublement. Il vient de là, de ce 1,8%. C'est une augmentation, comme disent ces rapports, non OCDE. C'est-à-dire que ce que nous faisons en France a très très peu d'influence sur ce chiffre. Ce doublement, il est lié d'une part à la croissance démographique mondiale. On nous parle de 9 milliards d'habitants au lieu de 7 à l'échéance 2050. Il est dû au fait qu'un nombre important de pays sont en train d'avoir des besoins énergétiques pour sortir du sous-développement. Et je crois que nous serions malvenus de le leur reprocher. Donc, quoi que nous fassions, nous sommes dans un contexte d'accroissement. Et si on regarde l'électricité, alors là, je suis effrayé réellement parce que la croissance électrique pendant cette même période n'est pas de 1,8%, mais de 2,9% par an. Ça, je n'ai même pas pris ma calculette pour savoir ce que ça fait, mais ça doit faire 5 ou 6 à l'échéance 2050. Donc, nous sommes placés, nous, la planète, devant une équation extraordinairement difficile qui est un doublement de la demande énergétique à l'échelle 2050 et un engagement pris collectivement par tous les grands pays dans toutes les rencontres internationales de diviser l'émission de gaz à effet de serre par deux à cette même échéance, la France étant même engagée à aller au-delà, à diviser par quatre. C'est une équation extraordinairement difficile et ambitieuse. Je crois que cet impératif de diminuer les gaz à effet de serre, nous sommes en tout cas à l'Académie des sciences, pour presque tous d'entre nous, convaincus que c'est une impérieuse nécessité, car réellement l'avenir de la planète est fortement en jeu. Donc comment peut-on espérer y arriver ? Nous sommes convaincus, exactement comme ce que vient de dire Bertrand Collomb, qu'il ne s'agit pas d'opposer telle possibilité à telle autre. Nous aurons besoin de tout. Nous aurons besoin des économies d'énergie, nous aurons besoin de la séquestration du CO2, nous aurons besoin du soleil et du vent, et nous aurons besoin du nucléaire. Le nucléaire, actuellement, représente dans le monde 14% de l'énergie électrique. Quand bien même, donc, nous doublerions le nombre de réacteurs nucléaires à l'échéance 2050, on resterait à 14%. On ne peut pas se passer de cette ressource et satisfaire les besoins à l'échelle de la planète. Donc, je vais quand même un tout petit peu revenir aux projections. Il y a actuellement, dans le monde, 440 réacteurs nucléaires en opération, soit environ 400 gigawatts installés. Nous avons 58 réacteurs à eau pressurisée en France, qui représentent environ 60 gigawatts. Lorsque nous interrogeons, Alors, les opérateurs, on peut dire qu'ils ont mis des lunettes roses, mais je ne crois pas. Lorsque nous interrogeons l'ensemble des industriels, les projections, surtout si on tient compte des grands pays asiatiques, les projections sont quand même qu'on passera de 400 gigawatts à 600 gigawatts installés d'ici 2030, c'est-à-dire environ sur les 440 réacteurs, il y aura environ 200 et quelques réacteurs dans le monde qui se construiront d'ici 2030, c'est-à-dire demain, puisque pour construire ces réacteurs, le temps de réaction nous impose de décider très vite. Alors les problèmes du nucléaire, je ne vais pas y revenir, permettez-moi quand même un commentaire sur les déchets. Monsieur Dessus, ce matin, nous a dit « J'ai découvert le problème des déchets en 2010 ». Alors, heureusement, le problème des déchets était connu depuis longtemps. Je voudrais signaler un point, quand même, parce que je pense qu'il peut intéresser cette académie comme la nôtre, c'est que les parlementaires, en 1991, se sont posé la question « Que faut-il faire ? Comment légiférer sur les déchets nucléaires ?» Ils sont aperçus, écoutant le CEA, les spécialistes, sont aperçus qu'il y avait différentes hypothèses formulées. Certains parlaient de laisser l'entreposage en surface, comme le font les Américains. D'autres parlaient de stockage. D'autres de rêver à la transmutation. Et je trouve que nous sommes devant un exemple d'interaction entre le pouvoir politique et les questions qui interpellent la société en matière de technologie et de science, tout à fait remarquable, car les parlementaires ont décidé, dans leur grande sagesse, de ne pas décider de donner 15 ans aux organismes publics, que sont le CEA et le CNRS, pour travailler sur les trois options. Il y a trois axes dans la loi qui imposent de travailler sur entreposage, stockage, transmutation. Rendez-vous était pris en 2006. En 2006, il n'y avait encore aucune expérience sur la transmutation, et donc ce rendez-vous a été prolongé. En particulier, nous avons en projet un réacteur, moi je n'ai jamais travaillé dans l'industrie nucléaire, faut que je précise tout de suite, nous avons en projet un réacteur qui s'appelle Astrid, qui devra valider éventuellement les possibilités de transmutation par les réacteurs à neutrons rapides. Donc, les problèmes de déchets, je trouve que c'est une bonne idée d'imaginer que ce ne sont pas les experts qui décident, c'est pas à nous ni aux académies de décider ce que doit faire le public. Je pense que c'est à nos instances démocratiquement élues de décider. Mais face à cette incertitude, se retourner vers nous, le monde de la science et de la technique, et nous demander de travailler de façon à éclairer leurs choix, je trouve que c'est une très belle démarche qu'on aurait pu suivre dans bien d'autres choses que sont les OGM, les cellules souches, etc., tous les problèmes que vous connaissez. Donc, en ce qui concerne le nucléaire, je voudrais dire quelques mots. D'abord, en matière de coûts. Alors, je ne suis absolument incapable de rentrer dans les problèmes économiques qui ont été discutés ce matin. J'ai livré mes propres interrogations sur ce qu'on entend par coût du nucléaire, car je ne sais pas comment on tient compte ni de la durée du démantèlement. Vous savez qu'on ne peut pas, il faut attendre 10 ans après la fin d'un réacteur pour pouvoir commencer à le démanteler, suivant qu'on le démantèle en 10 ans ou en 20 ans, le coût du démantèlement, si on le provisionne correctement année par année, change du tout au tout. En France, nous extrayons le plutonium à La Hague, suivant qu'on considère comme un déchet ou comme un futur combustible sur lequel je vais revenir. Eh bien, est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un combustible futur ? De la même façon, que penser, alors j'ai lu beaucoup de choses dans la presse, comme tout le monde, que penser du surcoût lié aux injonctions faites par l'autorité de sûreté post-Fukushima ? Vous avez vu ces injonctions qui ont été publiées il y a quelques semaines, qui me paraissent plus que saines. Eh bien, un calcul élémentaire montre que 200 millions d'euros pour un réacteur de 1 gigawatt qui voudrait ainsi satisfaire aux nouvelles normes requises par l'autorité de sûreté, s'il fonctionne encore pendant 20 ans, eh bien, ça représente un surcoût de 1 millième d'euro par kilowattheure. C'est-à-dire que c'est absolument rigoureusement négligeable. Il faut se rendre compte de ce que veut dire qu'un réacteur qui produit pendant 20 ans 1 gigawatt de puissance. C'est un peu la même chose en ce qui concerne le démantèlement, et finalement, nous en avons rediscuté ce matin. Le coût du démantèlement, s'il est correctement provisionné pendant 30 ans, peut représenter 1 euro supplémentaire sur les 40 ou 45 euros par mégawattheure. Ça ne remet pas en cause, contrairement à ce qu'on a dit parfois, ça ne remet pas en cause l'économie de cette filière. Le point suivant que je voudrais évoquer, c'est qu'il est totalement faux de considérer l'industrie nucléaire comme terminée, figée, pas plus que l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique. De même que toutes nos grandes industries évoluent, le nucléaire de demain n'aura rien à voir avec le nucléaire d'aujourd'hui, ni la deuxième, ni la troisième génération. La troisième génération, quelques mots en passant, la troisième génération n'a aucune rupture technologique avec la seconde, ça n'est que la seconde avec des dispositifs de sécurité améliorés, récupération éventuelle du corium en cas d'accident grave. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais il n'y a aucun principe nouveau par rapport à la seconde génération. En revanche, la quatrième génération, qui est à l'étude partout dans le monde, dans un consortium auquel la France appartient, elle est de nature tout à fait différente. Et permettez-moi 2 minutes pour situer cela. Nous, on nous a dit encore ce matin que l'indépendance énergétique de la France n'est pas assurée par la filière nucléaire puisque nous devons acheter de l'uranium. Alors, c'est vrai, nous avons acheté de l'uranium. Qu'est-ce que nous faisons de cet uranium ? L'uranium naturel ne contient que 0,7% d'uranium-235, qui est le seul élément naturel existant sur Terre, qui est fissile. Fissile, ça veut dire quand un neutron arrive sur l'uranium-235, il le casse et ça produit 2 ou 3 neutrons, d'où la réaction que nous utilisons. Donc, il y en a 99,3 qui, en gros, ne sert à rien. C'est si vrai que dans notre usine d'enrichissement, car à 0,7%, il n'est pas utilisable dans les réacteurs, dans l'usine d'enrichissement que nous avons au Tricastin, nous enrichissons de 0,7% à 3,5%. Et donc, comme résultat de cet enrichissement, nous déposons à côté de l'uranium appauvri en 235, 200 000 tonnes, nous en avons, qui en gros ne sert à rien. C'est un métal appauvri qui n'a aucune utilité, qui est là. Il est tout simplement là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons choisi en France, que ne font pas d'autres pays, ne font pas les Américains, par exemple, nous avons choisi de retraiter. Qu'est-ce que ça veut dire, retraiter ? Ça veut dire reprendre les combustibles usés. Un certain nombre de ces noyaux d'uranium-238 qui ne servent à rien, ils ne sont pas fissiles, ils sont fertiles. Ils se sont transformés dans un corps qu'on appelle le plutonium, dont vous avez tous entendu parler. Et à la Hague, nous extrayons le plutonium. C'est ça qu'on appelle le retraitement. Donc d'un côté, du plutonium extrait des combustibles usés, de l'autre, de l'uranium appauvri sans utilité au Tricastin. La quatrième génération consiste à utiliser le plutonium et l'uranium appauvri pour fabriquer de l'énergie, ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides ou les réacteurs surgénérateurs. Ils peuvent ne pas être surgénérateurs, ils peuvent être à quantité constante. Si nous arrivons à construire des surgénérateurs, et ceci est l'objet de l'étude Génération 4 dans le monde, nous avons actuellement sur notre sol assez de ressources énergétiques sans acheter le moindre centime d'uranium à quiconque pour des centaines d'années, voire des milliers d'années. Pensez que quand on passe de 0,7% à 100%, qui est l'utilisation du reste, on multiplie une disponibilité d'uranium qui peut être, je ne sais pas, 50 ans par 100. Ça veut dire qu'on passe de 50 ans à 5000 ans. Ce n'est pas tout à fait un détail. Donc, nous avons des ressources considérables. Face à cela, il y a une recommandation de l'Académie des sciences qui tient compte de l'organisation du nucléaire en France. Alors, sur quoi repose cette organisation ? D'abord sur des exploitants et des opérateurs qui nous paraissent plus soucieux de la sécurité que ne l'ont été les Japonais. Je crois que EDF, que nous avons longuement interrogé, que nous avons essayé de pousser à ses retranchements, a parfaitement résisté à nos assauts. En tout cas, ils ont été nombreux. Nous avons une autorité de sûreté qui, en particulier grâce à André-Claude Lacoste, a montrer son indépendance à tel point que les opérateurs Areva et EDF ne cessent de se plaindre de la sévérité excessive de notre autorité de sûreté. Moi, je trouve que c'est extrêmement rassurant. Et en plus de cela, l'autorité de sûreté repose sur un organisme public dont il n'a pas été question ce matin, et je voudrais quand même vous en signaler l'existence, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, organisme public chargé exclusivement des études de sûreté pour toutes les installations nucléaires, les hôpitaux aussi bien que nos réacteurs, ce sont quand même 1800 personnes qui travaillent, plus de 1100 ingénieurs ou chercheurs qui travaillent à cette IRSN en France, dans cet organisme public. Donc, nous avons une organisation qui nous paraît bonne, nous avons une industrie qui, comme je n'ai rien à ajouter ni à changer à ce que dit Bertrand Collomb, qui est quand même une de nos grandes forces, nous avons des possibilités à l'avenir, à travers la quatrième génération, à travers des études sur les à conduire très urgentes sur le devenir des déchets que nous conduisons dans ce laboratoire souterrain dans la Meuse, à Bure, que vous connaissez. Donc, nous avons des nécessités de recherche et des capacités de recherche aussi bien que des capacités industrielles abondantes. Et à ce stade, tout en suivant évidemment les recommandations de l'autorité de sûreté qui nous paraissent indispensables, nous pensons qu'il serait absurde de renoncer à l'énergie nucléaire ou même de ne pas expliciter dans des scénarios de réduction comment les gens qui proposent de tels scénarios vont s'y prendre pour ne pas augmenter les gaz à effet de serre. En particulier, nous sommes obligés de noter que l'Allemagne, en tout cas à présent, avec les options prises par Mme Merkel, a immédiatement remis en chantier des centrales à charbon, et en particulier à lignite allemande, qui est évidemment, en gros, ce qu'on peut imaginer de pire du point de vue du CO2, et donc une décision qui revient à tourner le dos à tous les accords qui, depuis Kyoto, ont quand même marqué tous les sommets internationaux qui cherchaient à résoudre les problèmes de la planète. Donc, voilà un avis de l'Académie des sciences qui a été adopté de manière très unanime. Je vous remercie.
Plusieurs émissions sur Canal Académie vous offrent la possibilité d'écouter une partie des intervenants de ce colloque. Le mot-clé à taper sur notre page d'accueil est évidemment le mot « nucléaire ».